7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue. Et non, ce n'est pas le générique habituel parce que c'est l'été chez 7 milliards de voisins. Et toute cette semaine, nous vous proposons notre série « Vivre en ville ». Chaque jour, des journalistes, reporters nous racontent la vie quotidienne dans une ville du monde. C'est un voyage non pas touristique, mais plutôt sociologique. Et aujourd'hui, premier jour de nos escales urbaines, vivre dans une ville artificielle, Islamabad, au Pakistan. Bonjour Solène Chalvon-Fioriti.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, auteur de documentaires. Votre dernier livre, cette année, premier et dernier livre d'ailleurs, j'espère pas dernier, premier livre porté sur l'Afghanistan, La femme qui s'est éveillée. Vous avez aussi vécu à Kaboul, mais surtout vous avez vécu 3 ans dans la capitale pakistanaise, Islamabad, qui signifie « ville de l'islam ». Construite dans les années 60, pourquoi vous avez choisi ce titre de ville artificielle ?
Parce que c'est une réflexion que les gens se font quand ils viennent à Islamabad. La ville ne ressemble pas au reste du Pakistan, si vous voulez. On n'a pas du tout, comme à Lahore ou à Karachi, cette profusion, ces villes qui sont, ces rues qui sont très très grouillantes de vie. Islamabad est beaucoup plus tranquille, avec des grandes avenues, c'est très pavé, c'est très vert, c'est extrêmement propre. Et donc, quand on connaît une ville comme Karachi ou comme Lahore, hein, je rappelle que Karachi, c'est 15 millions d'habitants, quand vous arrivez à Islamabad, 1 million d'habitants, vous avez vraiment le sentiment de vous mettre au vert. Et donc, ça ne ressemble pas du tout au reste du Pakistan, hélas. Enfin, hélas, et tant mieux quand vous y vivez, parce que du coup, la qualité de vie est en fait très agréable.
Donc, une ville administrative, politique, située très très loin de la mer, alors que Karachi est le poumon économique du Pakistan sur la mer d'Arabie. Aujourd'hui, ciel couvert à Islamabad, 69% d'humidité, il fait presque frais, 30 degrés comparé aux 50 degrés de la dernière canicule du printemps. La ville fait partie des régions du monde les plus touchées par le réchauffement climatique, alors qu'elle est un peu en altitude, Islamabad, hein, autour de 400-600 mètres d'altitude.
Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans les mois de septembre, d'août et de juillet, vous pouvez voir très souvent des gens qui viennent de Lahore ou de Karachi, encore une fois, se mettre au frais à Islamabad. Et quand ils ont même les moyens, ils vont un petit peu plus loin, à 1 heure de voiture de là, à Murray, qui est une ville climatique qui se trouve là à plus de 1500 mètres d'altitude. Et là, vous pouvez voir des petits chalets, vous avez l'impression d'être dans une petite Suisse. Et ça, c'est à côté d'Islamabad et c'est vraiment un lieu de villégiature. Et de toute façon, c'est sûr qu'à Islamabad, avec ses très grands espaces verts et ses très grandes avenues, vous ressentez beaucoup plus de frais et une qualité d'air bien supérieure à celle de Lahore, par exemple.
Alors, nous ne sommes pas encore en week-end à Islamabad, mais bien sûr, vous allez aussi nous raconter les week-ends à Islamabad. Vous signez le programme musical de l'émission et on va commencer avec un incontournable, Solène Chalvon.
Oui, j'ai choisi Nusrat Ali Khan, qui est vraiment une légende au Pakistan, qui est l'alpha et l'oméga en fait de la vue musicale pakistanaise. Nusrat Ali Khan, il est connu pour sa musique soufie, hein, le qawwali. Le qawwali, c'est une musique pakistanaise en fait qui fait partie du quotidien. On vous invite parfois à Islamabad à venir manger le soir et pour vous honorer en fait en tant qu'hôte, on va vous faire venir un orchestre de qawwali. Et le qawwali, si là on peut l'entendre.
On va l'entendre. La chanson s'appelle, on va le donner directement en français, hein, « La faiblesse n'existe pas pour celui qui tombe en amour ».
Mujhe
Nusrat Ali Khan, nous sommes en direct chez 7 milliards de voisins sur RFI avec Solène Chalvon-Fioriti qui nous raconte la vie quotidienne à Islamabad, cette ville artificielle. Nusrat Ali Khan qui en fait chante surtout son amour pour Allah dans cette chanson.
Oui, et c'est intéressant que vous ayez passé cet extrait parce que le mot qui revient toujours d'ailleurs c'est Mohabbat, qui est l'amour, et en fait le Qawwali et Nusrat Ali Khan en premier chef, en fait c'est une musique qui à chaque fois flirte entre le divin, c'est-à-dire qu'on ne comprend jamais s'il parle des anges, s'il parle de Allah ou s'il parle de sa bien-aimée. Et en fait cet entre-là, c'est ce qui fait que c'est vraiment le cœur du soufisme hein, d'ailleurs, et de la mystique soufie, et c'est ça qui fait que c'est magnifique, même si pour bien des expatriés, et d'ailleurs c'est ce que disent les Pakistanais disent, nous on ressent face au Qawwali ce que les Blancs ressentent à l'opéra, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même que parfois qui vous désarçonne, parce que c'est pas vraiment des percussions qu'on connaît, souvent c'est des voix très graves, des voix masculines, c'est entêtant, ça peut être très très long, donc c'est vrai que parfois vous êtes un peu interdit, et en fait finalement, c'est vrai que moi-même, au fil des années, j'ai commencé à ressentir ce truc-là en écoutant des Qawwali, et c'est devenu presque une addiction,
hein,
tout à fait, oui, tout à fait, une transe, et même mon fils à l'arrière de la voiture, il adorait ça, donc ça fait vraiment partie de la vie quotidienne. Ouais.
Islamabad, une ville dense tout de même sur 65 km carrés, bon, 1 million d'habitants, certes ça reste comme une ville de province pour le Pakistan, mais bien sûr c'est la capitale politique, administrative, aérée par sa conception, vous nous le disiez Solène Chalvon-Fioriti, il faut dire qu'en fait la croissance urbaine est en réalité absorbée par la ville voisine, une sorte de grosse banlieue, non ?
Tout à fait, la banlieue, enfin qui n'est pas vraiment une banlieue, qui ne voudrait pas qu'on l'appelle banlieue, ne serait-ce que parce qu'elle est vraiment le lieu de l'état-major pakistanais. Vous savez, l'armée pakistanaise, c'est la colonne vertébrale du Pakistan, et donc la ville bastion de l'armée pakistanaise, c'est cette ville à côté d'Islamabad qui s'appelle Rawalpindi, et qu'on appelle Pindi dans le jargon à Islamabad, et Pindi effectivement concentre là les marchés, la vie très très vivante, toute la classe, en fait la petite classe moyenne et la classe populaire en fait qui vient travailler à Islamabad dans la journée, qui repart ensuite à Pindi. Mais c'est vraiment, quand on regarde les deux villes l'une à côté de l'autre, enfin c'est vraiment les meilleures ennemies, elles n'ont rien en commun.
Ça veut dire qu'à Islamabad on ne trouve pas de marché, de petites échoppes comme dans le sous-continent indien, pas de chaos?
Pas du tout, non, alors on trouve tout sauf le chaos. Les marchés que vous évoquiez sont d'ailleurs, en fait, sont intégrés à l'intérieur de concessions ou à l'intérieur des immeubles, justement parce que quand la ville d'Islamabad a été pensée et montée dans les années 60, on voulait surtout pas que ce soit le bordel. Donc c'était vraiment, c'est-à-dire que le marché, la petite échoppe ou le monsieur qui serait avec sa charrette, tout ça, on voulait pas de ça dans le paysage urbain d'Islamabad. Et donc c'est pour ça que les marchés sont organisés à l'intérieur des immeubles. Ce qui est intéressant du coup, c'est que quand vous avez de la visite et de gens qui viennent à Islamabad et qui restent quelques jours, ils sont là, ils ont le fantasme d'une ville qui pourrait ressembler à une ville indienne où ils vont pouvoir trouver des tissus, voilà, de l'artisanat, etc. Et en fait, à Islamabad, on ne trouve rien de tout ça. Là, encore une fois, c'est très artificiel. Donc il faut aller à Pindi pour trouver tous ces cadeaux et toutes ces choses qu'on a envie de ramener avec soi, évidemment, quand on va dans un pays pareil.
Donc ça veut dire, dans cette ville planifiée, dans cette ville artificielle, qu'il n'y a pas de quartier pauvre? Ces quartiers pauvres, on va les trouver à Rawalpindi?
Très peu, oui. Alors en fait, pour les quartiers pauvres, on va à Rawalpindi, ou alors en bordure d'Islamabad, il y a des communautés de déplacés. Donc vous allez trouver des Afghans qui vivent dans des camps, vous allez trouver des communautés plus rurales qui fuient la sécheresse, par exemple, notamment de par le Pendjab. Et donc là, il y a effectivement quelques troupeaux, quelques cheptels par moment, des endroits qui sont montés ou dans des tentes ou dans des maisons vraiment pisées dans un état épouvantable, mais ça représente quelques milliers de personnes. Le très gros de la ville, c'est une classe moyenne travailleuse et qui travaille aujourd'hui.
Et
oui.
Ces personnes pauvres, c'est typiquement ce qu'on appelle les travailleurs journaliers, c'est ça hein ?
Tout à fait, on les appelle les daily wagers au Pakistan. Ce sont des gens que vous ne voyez pas, en réalité, qui occupent tous ces petits métiers qui, chez nous, voilà, on a la chance de les avoir en France, de les avoir sous contrat, et des gens qui travaillent dans des bonnes conditions de travail. Là-bas, ce sont des gens qui, en fait, les 2 dollars que vous allez gagner par jour pour refaire la voirie ou aller faire des travaux dans un immeuble, et ben, c'est les 2 dollars qui vont vous permettre de donner à vos enfants à manger le soir. Et en fait, toute cette communauté en fait, de daily wagers que vous reconnaissez, parce que c'est souvent des gens gens qui ont un foulard autour de la tête qu'ils utilisent pour quand ils transpirent, en fait, pour s'essuyer, et parce qu'ils ont des pioches sur l'épaule. Ces gens, on les a vus. En fait, ils ont éclaté au grand jour pendant le Covid, pendant le confinement, parce que, encore une fois, ce sont des daily wagers. S'ils n'ont pas les 2 dollars, les enfants n'ont pas à manger le soir. Et donc, ils sont sortis de chez eux. Ils n'ont pas respecté les confinements. Et ils suppliaient les gens dans la rue de les faire travailler, ou en tout cas de les nourrir, parce que c'est une économie à très, très court terme. Et ce sont les gens les plus pauvres d'Islamabad qu'habituellement, vous ne voyez pas dans votre quotidien.
Et cette pauvreté rime avec exploitation. Et elle est la cible du trafic d'organes qui n'est pas propre à Islamabad.
Non, qui n'est pas propre à Islamabad, mais qui représente un fléau terrible en Asie du Sud. Et le Pakistan, pas forcément en premier lieu, parce qu'au Bangladesh, ça va aussi très mal. Mais c'est certain que ces dernières années, on a vu éclater le trafic d'organes de reins. Et plus grave encore, c'est un trafic qui touche en premier lieu les femmes. Pourquoi ? Parce que dans des communautés rurales ou des communautés déplacées, comme les déplacés qu'on trouve en bordure d'Islamabad, les hommes sont plus affectés dans les champs. Les hommes ont un travail physique qui est plus important. Et puis les femmes comptent moins. Il faut quand même pas se raconter d'histoire. Et du coup, ce sont les femmes. Ce sont aux femmes en priorité à qui on demande de vendre leurs reins, notamment.
On écoute une archive d'un de vos reportages, Solène Chalon-Fioriti.
Une femme est venue voir ma famille et elle a dit qu'elle était du gouvernement. Elle nous a dit que nous étions pauvres, que nous ne possédions même pas de maison. Elle a dit qu'elle pouvait nous aider, qu'il lui restait tout juste une bourse à distribuer pour que j'obtienne une dot de l'État. Alors je suis allée chez elle, j'ai signé un formulaire et ensuite avec une seringue, elle a prélevé du liquide dans le bas de mon dos. Depuis, j'ai très mal aux jambes et aussi au dos.
Ce trafic d'organes, il concerne de multiples parties du corps.
Alors vraiment, l'écrasante majorité, c'est les reins. La petite fille qu'on a entendue, qui est en fait très jeune, elle a une voix plus adulte, mais elle est très jeune, elle a 15 ans. C'est une ponction lombaire. Et surtout, son histoire est très révélatrice, parce que c'est, vous savez, l'énorme pression en fait sur les familles, c'est la pression comme en Inde sur la dot. Et donc, il y a beaucoup de gamines qui sont approchées, de jeunes filles qui sont évidemment pas majeures, et qui sont approchées, où on va voir les familles, on leur raconte, comme dans le reportage, tu sais, ta fille, de toute façon, personne là dans ton village, personne n'a d'argent, personne ne pourra la marier, tu auras cette charge à vie, ou alors nous, on te propose une dot qui fait que tu pourras trouver un mari pour ta fille sans lui demander de payer quoi que ce soit. Donc donne un petit peu, donne un rein ou laisse-nous faire cette ponction lombaire. C'est épouvantable, et surtout, je tiens quand même à rappeler que l'État pakistanais ne fait rien pour combattre ce fléau qui se passe dans les angles morts, auprès des classes populaires rurales, et du coup, ça n'intéresse personne.
Quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit d'ailleurs, tout se passe à l'intérieur des maisons à Islamabad, il n'y a pas de culture de l'espace public. Difficile du coup de prendre le pouls de la ville, non ?
Oui. Et encore, je veux dire, à Islamabad, moi, je marchais dans la rue, je vois des femmes marcher dans la rue. Dans les parcs pour enfants, il y a des familles. Il y a quand même une vie qui se développe peu à peu dans l'espace public. Mais pourquoi est-ce que l'espace public est dangereux ? L'espace public est dangereux parce que je rappelle que quand même le Pakistan était un pays effroyablement dangereux. Karachi a été très longtemps la deuxième ville la plus dangereuse du monde, ciblée par des attentats terroristes, dont il faut quand même bien dire qu'il y a eu, de la part de l'État pakistanais, un très gros effort pour lutter contre ces terrorismes. Mais tous les gens d'ailleurs autour de nous, on habitait de façon plutôt relaxe au Pakistan, mais autour de nous, les gens nous disaient, tu sais, jusqu'à 2014, on avait peur tout le temps, on avait peur dehors. Donc en fait, évidemment, quand l'extérieur est dangereux, et l'extérieur dans les villes, Lahore, Karachi, Islamabad était extrêmement dangereux, ciblé par des attentats, l'espace public, on ne l'occupe pas. Et puis on ne l'occupe pas aussi parce que c'est un pays très conservateur, très patriarcal, très traditionnel. Et une femme qui traîne dehors, bon, et encore dans les villes, les mentalités, elles ont un peu évolué, mais une fille qui traîne dehors, pour bien longtemps et encore maintenant, j'ai pu l'expérimenter en reportage, c'est une fille de petite vertu, c'est une fille de mauvaise vie. Donc c'est vrai que...
Y compris pour faire du sport, par exemple.
Oui, tout à fait. Faire du sport, c'est très mal vu au Pakistan en extérieur, pour les femmes. Donc on ne voit jamais, on voit des hommes à l'extérieur, on ne voit pas de femmes, sauf là encore une fois à Islamabad, et c'est intéressant parce qu'elles font du sport et elles courent dans les terrains de cricket. Et vous savez, les terrains de cricket, c'est des terrains circulaires, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de buissons, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'endroit où on peut se jeter sur vous, vous pouvez être agressé, etc. C'est totalement rare, c'est un gazon circulaire, et donc les femmes, en fait, elles courent autour parce qu'elles se sentent justement protégées. Et c'est dans ces endroits-là, très rares endroits, qui n'existent quasiment pas à Lahore, où on voit des femmes faire un jogging, éventuellement un peu de fitness, mais c'est quand même toujours avec une tenue couvrante, une tunique qui ne laisse ni apparaître votre autre jambe, ni votre niveau fesses, évidemment. C'est quand même toujours très conservateur.
Les agressions sexuelles pour les femmes, même à Islamabad, c'est quelque chose qui peut être une préoccupation.
Une préoccupation de tous les instants. Hein. Il y a même fréquemment dans les espaces publics, justement, qui ne sont pas assez surveillés. Et notamment à Islamabad, il y a cet immense parc qui est un parc absolument magnifique, qui est peut-être le plus gros beau parc que j'ai vu de ma vie, qui s'appelle le F9 Park, qui est surmonté par un mausolée qui a été construit par l'Aga Khan. Vous savez qu'il y a un grand pourvoyeur de monuments contemporains au Pakistan. Et donc, il y a un parc avec des reliefs, par moments des champs de fleurs, enfin dans lequel on marche énormément et on allait beaucoup en famille. Et bien ce parc-là, comme il est mal surveillé, les Pakistanaises n'y vont jamais seules. Et d'ailleurs, il y a eu des scandales de viols à répétition quand j'étais là-bas dans ce parc parce qu'il est mal surveillé. Pareil pour les collines qui bordent Islamabad, les fameuses Margala, qui sont très très agréables à arpenter pour partir en trek. Mais malheureusement, vous pouvez faire des mauvaises rencontres et il y a des agressions sexuelles qui sont reportées chaque année. Donc l'espace public n'est pas un endroit sûr. Et dans ces circonstances, pourquoi est-ce qu'un père de famille encouragerait ses filles à dominer l'espace public puisque l'espace public est dangereux? Vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord
la queue. Mais alors, les loisirs finalement dans cette ville, lorsque l'on sort de son domicile, de sa maison, beaucoup de petites maisons individuelles aussi. Qu'est-ce que c'est d'aller au centre commercial?
Alors déjà, les loisirs, je crois, hein, à Islamabad, comme dans les autres villes du Pakistan, c'est un...
Pour la classe moyenne,
voilà,
on va dire.
J'allais dire, c'est un concept culturel qu'on ne voit pas nécessairement aussi facilement que dans nos mondes à nous. Les Pakistanais à Islamabad se rendent au mall, oui, au centre commercial. C'est vraiment une attractive, enfin, c'est vraiment les endroits, les pôles d'attractivité premiers, même si, là encore, car présomption d'agression sexuelle, les malls ne sont pas ouverts aux bandes de jeunes garçons.
Ah oui.
Ils n'y rentrent pas.
Donc là, on cherche à protéger les femmes, du coup.
On protège les femmes tout en étant dans le tabou. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que c'est pour des questions d'agression sexuelle. D'ailleurs, le mot agression sexuelle n'est pas du tout prononcé de la sorte en ourdou. Ça ne se dit pas comme ça. On va parler plutôt d'attitudes inappropriées. Mais c'est bien pour protéger les femmes. Et d'ailleurs, c'est le même règlement qui s'applique au parc. Au parc, mon mari ne pouvait pas amener mon fils tout seul au jardin d'enfants. Parce qu'un homme seul ne rentre pas, même s'il est accompagné d'un enfant, dans un jardin parce qu'on craint qu'il ait une attitude inadaptée à l'égard des autres enfants ou des femmes du parc. Donc c'est vous dire la pression qui existe dans ces endroits-là. Maintenant, les loisirs, en fait, ils existent surtout à l'intérieur des communautés, en fait. Hein. Les loisirs, c'est de recevoir sa famille.
Les fêtes familiales.
Tout à fait, les fêtes familiales, c'est de cuisiner pour ses proches, c'est de préparer des mariages. Hein. Ça, c'est évidemment, c'est très très présent dans la culture pakistanaise, mais c'est vrai que ce sont plutôt des loisirs d'intérieur.
Le week-end, finalement, pour sortir de cette ville artificielle, vous nous disiez au début de l'émission, il y a bien sûr les riches familles qui ont des chalets dans les montagnes aux alentours, hein, puisque c'est une ville qui est entourée de collines, voire de petites montagnes. Mais sinon, finalement, ça n'est pas une vraie préoccupation pour les habitants. Ça veut dire que la ville n'est pas tournée vers la nature environnante, finalement, paradoxalement.
Alors, oui et non, parce que encore, alors déjà la nature environnante, c'est quelque chose qui met du temps à être apprécié par les Pakistanais, puisque le marché dehors ne va pas de soi, le sport ne va pas de soi, la nature ne va pas de soi, et même s'il y a des efforts considérables qui sont faits, notamment dans la fameuse Margala dont je vous parlais, c'est-à-dire dans la chaîne de collines, pour que les Pakistanais protègent leur environnement, pour qu'ils ne jettent pas des cailloux sur les singes, pour qu'ils ne laissent pas leurs papiers par terre, etc. C'est vraiment des concepts, si vous voulez, les concepts d'écologie qui sont très présents à nos quotidiens. Mettent beaucoup plus de temps à voyager là-bas. Et puis, il y a des problématiques qui... Les gens, ils ont besoin de se chauffer, de nourrir leurs enfants, de travailler. Donc, c'est vrai que l'écologie peut venir très loin derrière. Néanmoins, à Islamabad, comme justement, c'est une capitale qui est très propre par rapport au reste du pays, on voit bien qu'il y a beaucoup de petites associations de jeunes universitaires qui mettent des panneaux, qui sensibilisent à la vie sauvage. Alors vous avez par exemple des images qui ont fait vraiment le tour du pays au moment du Covid, où vous avez vu des léopards qui descendaient des margalas, des collines, pour marcher dans ces grandes avenues pakistanaises. Tout le monde a vu ces images au Pakistan et elles touchent quand même beaucoup les Pakistanais. Donc il y a progressivement, on voit de plus en plus de gens sur les chemins de randonnée, on voit de plus en plus d'enfants, des gens parfois très traditionnels, hein, des femmes très couvertes, en niqab, etc., mais avec une paire de baskets. Et ça, c'est très chouette.
Oui.
C'est super parce qu'on voit qu'en fait, qu'ils ont tellement de raisons d'être fiers de la nature du Pakistan, qui est quand même une nature exceptionnelle, qu'on voit de plus en plus de touristes locaux.
Islamabad, la ville artificielle peut être trop moderne pour les mœurs réelles du pays. On va en discuter avec vous, Solène Chalvon-Fioritine. Nous allons parler aussi de l'affaire Asia Bibi, puisque c'est dans cette ville que siège la Cour suprême qui a jugé l'affaire Asia Bibi il y a maintenant...
3 ans.
Oui, c'est ça. Cette chrétienne condamnée à mort pour blasphème a été emprisonnée pendant des années avant d'être acquittée. On va en parler juste après votre choix musical, Solène Chalvon-Fioriti, qui passe sur toutes les radios, dans votre voiture. C'est un tube super romantique. Atif Aslam.
Oui, alors c'est vraiment ce que je vous disais, c'est un peu le Ricky Martin du Pakistan, Atif Aslam, il est beau.
Faut aller voir le clip, hein. Ça
il
vaut
est
le
gentil.
Coup d'œil.
Ouais, le clip vaut vraiment le détour. Évidemment, c'est une chanson d'amour et qu'on retrouve à la fois justement à la radio, dans la voiture, mais aussi qui passe beaucoup dans les centres commerciaux, qui passe dans les mariages, qui est un incontournable de l'amour un peu fleur bleue pakistanais. Donc j'espère qu'on va pouvoir l'entendre.
On vous note toutes les références du programme musical de Solène Chalvon-Fioriti sur notre compte Instagram, 7 milliards RFI, bien sûr sur la page Facebook, sur la page de l'émission Atif Aslam. Le titre, c'est Dil Dayan Galan. Désolé pour l'accent, mais en tout cas, ça veut dire les mots de mon cœur.
Kachi dorion, 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 se meno to bandhle. Pakki yariyon, yariyon. यारियों में होंदे ना फासले ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला
Vous Vous écoutez 7 milliards de voisins en direct sur RFI. Non, ce n'est pas le programme musical habituel, c'est normal. C'est notre série d'été, toute cette semaine, du lundi au vendredi. Vivre en ville, chaque jour, une ville du monde racontée dans sa vie quotidienne, dans la perception de la ville par ses habitants, les mentalités, la sociologie par un journaliste reporter. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Solène Chalvon-Fioriti. Vous avez vécu, Solène, 3 ans dans ce que vous appelez la ville artificielle, la capitale politique du Pakistan. Ça n'empêche pas qu'on puisse, dans cette ville très aérée, très ordonnée, très planifiée, avec ses grandes avenues où on n'a même pas besoin de GPS, paraît-il, pour se repérer. Hein. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir ces notes ultra romantiques. Girly, cheesy, comment dites-vous à Islamabad,
On dit cheesy en réalité parce que les Pakistanais, c'est l'histoire de la colonisation, mais les Pakistanais ont énormément de mots anglais dans leur vocabulaire. Et là, ça, vraiment, le mot cheesy correspond très bien parce que si vos auditeurs vont voir le clip, c'est vraiment de la tarte à la crème, de la tarte à la crème. Et c'est ça que j'aime, c'est ça aussi qui est intéressant au Pakistan et aussi à Islamabad, où mine de rien, c'est essentiellement des gens qui travaillent, comme il y a des groupes universitaire, on voit bien qu'il y a une jeunesse qui cherche à choisir son amoureux ou son amoureuse. Hein. On est encore, c'est vraiment dans des modèles assez traditionnels d'amour très
de mariages arrangés en général.
Et ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est cette littérature, elle est d'autant plus touchante, j'ai envie de dire, et ces musiques d'autant plus touchantes que l'écrasante majorité des mariages sont toujours arrangés. Et Islamabad essaye, hein, on sent bien au sein de la jeunesse qu'il y a une jeunesse qui essaye de s'échapper de ça, mais en fait, on y est toujours ramené. Et d'ailleurs, à Islamabad, comme dans le reste du pays, il y a des marieuses qui sont très connues, qui sont ce qu'on appelle les rishta aunties, qui sont des tantes marieuses que les filles ou les garçons vont voir avec leurs parents et qui est là pour leur trouver une femme ou un mari. Donc, c'est vrai que comme tous ces amours sont finalement en fait des amours un peu contrariés, je crois que ça alimente une forme de passion, d'appétit pour ces musiques-là. Et vous pouvez pas passer une journée à Islamabad sans entendre parler d'amour. Vraiment, l'amour, c'est un fait national incroyable.
D'autant plus que ces amours sont souvent contrariés, finalement.
Exactement, d'autant plus que ces amours sont contrariés. Et puis surtout, l'amour, c'est politique au Pakistan. Et c'est aussi politique à Islamabad.
Et bien justement, on va en parler. Alors, avant qu'on parle du blasphème, la sécurité, vous nous le disiez au début de l'émission, les villes au Pakistan, il y a un vrai problème de sécurité. Les attentats, les agressions sexuelles, la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan l'été dernier, est-ce que ça contribue à détériorer la sécurité au Pakistan? Dans quelle mesure Islamabad, cette ville artificielle, très différente des autres, est concernée aujourd'hui par la menace d'attentats?
Alors, d'abord, juste pour les attentats, ce que je voulais bien préciser tout à l'heure, mais peut-être que je n'ai pas été claire, c'est que les attentats ont considérablement chuté. Hein, vraiment,
la ville n'est plus
du tout aussi dangereuse qu'elle l'était il y a encore même 5-7 ans. Sur la question des talibans, non. En fait, Islamabad n'est pas particulièrement... n'a pas à être inquiété. Pourquoi ? Parce que les Pakistanais ont soutenu les talibans, les Pakistanais ont armé les talibans, les Pakistanais sont, si vous voulez, les alliés historiques des talibans. Maintenant, votre question est tout à fait pertinente parce que comme souvent dans l'histoire du Pakistan, l'élite pakistanaise et les politiques pakistanaises sont aussi souvent dépassées par les mouvements islamistes qu'ils portent et qui peuvent tout à fait se retourner contre eux. Et donc là, en ce moment, on est vraiment, justement, dans l'expectative. C'est très suspense parce que les relations qui étaient excellentes avec les talibans sont en train quand même de se muscler. On voit bien qu'en fait les talibans, ils n'ont pas envie de vivre complètement sous la coupe des Pakistanais, et donc c'est en train de ressembler à un bras de fer. Ce n'est pas Islamabad qui va en souffrir, puisque les talibans qui suppliciaient le Pakistan étaient les talibans pakistanais, le TTP, qui est en fait très différent des talibans afghans. Mais ce qui est vrai, c'est que la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan est contesté de part et d'autre par des mouvements, notamment par les talibans afghans, et qu'on voit bien que là, sur cette frontière, il y a de plus en plus d'attentats dans les zones tribales pakistanaises. Donc si les attentats se rapprochent, évidemment, c'est bon pour personne, et puis d'autant plus que je rappelle que les zones tribales pakistanaises, c'est Peshawar, et Peshawar, c'est à 2 heures en voiture d'Islamabad. Donc c'est évidemment bon pour personne, en réalité au Pakistan, que les talibans soient au pouvoir en Afghanistan aujourd'hui.
Solène Chalvon-Fioriti, vous avez pas mal enquêté sur un sujet, évidemment. évidemment qui touche les préoccupations des islamistes, le blasphème, à l'occasion de la loi sur le blasphème, de la libération d'Asia Bibi. Est-ce que le procès, la condamnation puis la libération d'Asia Bibi a marqué l'histoire de cette ville, alors que c'est un sujet, finalement, le blasphème qui est, dont on ne débat pas tant que cela publiquement, non ?
Oui, alors en fait, Islamabad, on pourrait imaginer, comme les groupes islamistes ne sont pas à Islamabad, hein, les groupes islamistes très radicaux sur la question du blasphème, ils sont beaucoup plus à Lahore, ils sont beaucoup plus dans le Pendjab, c'est-à-dire vraiment dans l'est du pays. Mais Islamabad, en fait, Islamabad ressemble à ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une grande ville avec des avenues, des gens qui vont travailler, bon, ou en tenue traditionnelle ou d'ailleurs en costard, et qui sont dans des boulots d'administration, dans les ministères, etc. Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'avocats, enfin vraiment des gens qui travaillent de façon régulière, la classe moyenne supérieure et même les élites. Maintenant, en fait, les marches, les très grandes marches qui ont paralysé le pays à plusieurs reprises, et notamment sur l'affaire Asia Bibi, qui sont donc des marches dont il faut imaginer ce que c'est, hein, c'est des centaines de milliers de militants qui marchent nuit et jour, qui dorment sur les routes et qui reprennent les marches le lendemain, qui sont extrêmement violente, qui expose des gens qui marchent avec des cordes pour bien montrer qu'elle doit être pendue, qui appelle à tuer les blasphémateurs. Ces marches terminent toujours à Islamabad. Parce qu'Islamabad, comme vous l'avez dit, c'est la capitale administrative, politique, c'est là que les décisions se prennent et c'est surtout là que siège l'illustre et la très réputée et très même respectée Cour suprême pakistanaise.
Et c'est là que vous avez rencontré l'avocat d'Asia Bibi au moment de sa libération à la sortie de la Cour suprême.
La Cour suprême a prêté serment de protéger la constitution de ce pays. Elle s'y est tenue. Les juges l'ont montré, alors qu'ils ont été menacés, alors qu'on a demandé qu'ils soient tués. Aujourd'hui, Asia Bibi va pouvoir profiter tranquillement de la vie dans un bon pays.
L'affaire Asia Bibi, Solène Chalvon-Fioriti, on va peut-être rappeler un peu pour ceux qui ont oublié, mais c'est une affaire qui a retenti dans le monde entier.
Oui, c'est une affaire très triste et surtout qui a été suivie de beaucoup d'autres Asia Bibi, mais qui n'ont pas eu la chance d'être connues. Asia Bibi, donc il y a un peu plus de 10 ans, est une mère de famille qui travaille dans le Pendjab, qui travaille en tant qu'ouvrière agricole et suite à une quête, au milieu de la journée, elle cherche à boire un verre d'eau dans un seau d'eau qu'elle partage avec d'autres villageoises qui travaillent avec elle dans ce champ. Et en fait, elle, en prenant un verre d'eau, elle est accusée de par ses co-religionnaires d'avoir souillé l'eau parce qu'elle est chrétienne et ce tabou de la chrétienté, ce tabou de la caste sale, vous voyez, qui fait penser aux intouchables en Inde, malheureusement, évidemment, qui en résulte, est encore très présent au Pakistan. Et une engueulade, en fait, démarre. Et là, les femmes qui entourent Asia Bibi vont dire qu'elle a blasphémé. On ne saura jamais qu'elle est blasphème puisque le blasphème ne peut pas être répété. Hein, c'est au point où, à l'intérieur même de la Cour suprême, les gens qui écrivaient le blasphème d'Asia Bibi, enfin qui devait le réciter, il l'écrivait sur un bout de papier pour ne pas avoir à le prononcer. Vous voyez, ça va vraiment aussi loin que ça, malheureusement, aujourd'hui. Et donc, en réalité, ce qu'elle a toujours défendu, en tout cas, c'est qu'elle aurait dit « ton prophète n'aimerait pas que tu me parles comme ça, que ton prophète prône, ton prophète respecte les religions du livre. » Et suite à ça, un calvaire qui ne peut même pas être raconté, une femme enchaînée au cou pendant des années, ses gamines forcées de boire de l'urine dans son village. Enfin, vraiment un traitement totalement inhumain, mais c'est vrai, une solidarité internationale extraordinaire qui va lui permettre d'être relâché, qui va aboutir par une décision de la Cour suprême. Mais pour en revenir à Islamabad, ce qui est intéressant, c'est que la Cour suprême prend cette décision. Et là, il y a dans cette décision tout ce qui est fascinant avec le Pakistan et avec Islamabad en particulier. C'est-à-dire que moi, j'étais à l'intérieur de la Cour, à l'intérieur de l'audience. C'était d'ailleurs un mouvement très très émouvant pour les journalistes qui ont travaillé sur l'affaire.
Il y avait des journalistes du monde entier. Hein,
du monde entier, c'était vraiment le grand événement. Ouais. Et à l'intérieur de cette Cour suprême, qui était un bâtiment absolument magnifique au cœur d'Islamabad, vous avez des islamistes radicaux qui sont des gens qui appellent à la faire pendre depuis des années. Mais quand le juge.
Elle a été condamnée à mort d'ailleurs, au départ.
Oui, elle avait été bien sûr condamnée à mort. Là, en l'occurrence, c'était le jour de l'acquittement. C'est pour ça que c'était très émouvant. Et quand le juge rend sa décision de justice, vous avez tous ces religieux radicaux qui sont venus et qui ne disent rien parce qu'ils respectent l'administration pakistanaise, parce qu'ils respectent la décision du juge. Ils sont habillés de noir, ils sont silencieux alors qu'ils sont vraiment très imposants. Et ce sont les mêmes types que vous voyez dehors, perchés sur des containers et qui appellent vraiment à décapiter les juges, à décapiter Asia Bibi. Mais à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur de l'office, il y a un calme qui règne et on respecte les juges. Et c'est quelque chose qui je pense, ne peut pas arriver à Lahore ou à Karachi. C'est quelque chose qui est très lié au Islamabad institutionnel et au respect qu'on a pour ces institutions.
Il ne faut pas non plus en déduire qu'Islamabad serait une ville progressiste. C'est toute la complexité, l'ambiguïté de cette ville. Parce qu'il existe à Islamabad un mausolée qui raconte beaucoup de choses sur le blasphème. C'est le mausolée de Mumtaz Kadri, du nom du garde du corps qui a été assassiné, qui a assassiné le gouverneur du Pendjab. Il y a 11 ans.
Ouais, tout à fait.
Parce que ce gouverneur avait critiqué la loi sur le blasphème. À quoi ressemble ce mausolée ?
C'est effrayant à dire, mais malheureusement c'est très très beau. Donc ça ressemble un peu à une mosquée. De toute façon, ce qu'on appelle les shrines au Pakistan, c'est-à-dire les mausolées, les sanctuaires, ressemblent souvent à des mosquées. Donc il y a, et là en plus c'est aussi une mosquée. Donc c'est un bâtiment avec des minarets très effilés. Tout est doré. Il y a des miroirs absolument partout, des petites fleurs en plastique. C'est très propre, c'est très bien entretenu. Vendredi,
c'est bien à la gloire d'un assassin.
Et c'est à la gloire de Mumtaz Kadri,
un gouverneur.
Mumtaz Kadri donc repose d'ailleurs dans ce lieu-là. Sa tombe est aussi sertie de 1000 lumières et on vient en fait s'y recueillir pour faire l'éloge et pour se féliciter de l'acte du crime en fait de Mumtaz Kadri, et donc cet homme qui faisait partie du corps d'élite de la police pakistanaise et qui a assassiné son chef en fait, le gouverneur du Pendjab, au motif que celui-ci aurait blasphémé. Et en fait, c'est quand on se rend dans des endroits comme ça à Islamabad qu'on mesure aussi le caractère artificiel même de la société, c'est-à-dire que on a l'impression que c'est détendu, on a l'impression qu'on est face à des gens qui sont plutôt qui font partie des classes libérales pakistanaises et non pas du tout.
Vous avez rencontré dans ce mausolée Annika qui dépose son nouveau-né sur le mausolée, admirative encore une fois d'un assassin.
Je suis ici pour prier.
Pourquoi Mumtaz Kadri est important pour elle ?
Parce qu'il a donné sa vie pour l'islam.
En détaillant du regard les 1000 décorations du tombeau scintillant, entre fleurs en plastique pendant au plafond, petits miroirs incrustés dans le marbre de la stèle, Annika, la grande sœur de la fillette, dépose son nouveau-né sur la tombe pour faire une photo.
Mumtaz Kadri a donné sa vie pour l'islam et c'est un grand sacrifice qui ne peut être fait que par une personne courageuse. Quand il s'agit de défendre la religion, les gens parlent beaucoup, mais lui, il a agi, il a défendu l'islam et tué une personne qui était contre notre religion et le prophète Mahomet. C'est donc un acte de bravoure. Les gens comme lui sont rares dans notre pays.
Voilà, encore une fois, pour ceux qui prendraient l'émission en cours de route, on est bien à Islamabad, dans la ville artificielle, racontée au quotidien par Solène Chalvon-Fioriti. Et on sort de ce mausolée avec vous, Solène Chalvon-Fioriti. Et cette jeune femme qui nous laisse assez sans voix, finalement, qui parle d'un assassin qui a assassiné le gouverneur du Pendjab, comme d'une personne courageuse au nom de l'islam.
Oui, et c'est ça, je pense que c'est ce qu'il faut garder en tête aussi, et ce qui par moments, même pour nous, à vivre au quotidien, était un peu vertigineux. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on n'entend pas dans le reportage, c'est que quand je vais donc sur ce mausolée de cet assassin, je suis aussi assaillie de familles pakistanaises qui m'invitent à manger avec elles, qui m'invitent au mariage de leur fille. Certains sont ingénieurs, certains sont avocats, les femmes sont très chaleureuses. Et donc, c'est vrai que c'est vertigineux parce qu'en même temps, ils sont là donc pour... Ils sont là pour honorer Mumtaz Kadri qui donc a tué un homme dont le crime est d'avoir dit qu'il faudrait sans doute revoir les lois sur le blasphème. Donc ça, c'est là en permanence au Pakistan, et c'est ce discours, c'est cette petite phrase d'Annika qui résume tout en fait, c'est il a défendu l'islam. Et Et en fait, il a défendre l'islam est devenu au Pakistan, et c'est terrible parce qu'il y a une vraie radicalisation sur cette question-là. Défendre l'islam, c'est devenu une sorte de credo.
Interdire tout débat, toute discussion.
Interdire tout débat. Revenons sur l'amour tout à l'heure. Je disais, l'amour est très politique. Mmh. Au moment de la Saint-Valentin au Pakistan, vous avez évidemment tous les fleuristes, les magasins, ils vont vous sortir des ballons en forme de cœur, des roses rouges en pagaille. Eh bien, le jour de la Saint-Valentin, il y a 2 ans, on a tous reçu sur notre téléphone portable un petit texto du gouvernement pakistanais qui vous demande de ne surtout pas céder aux sirènes de la Saint-Valentin, puisque la Saint-Valentin est anti-islam. Vous voyez, et donc là, c'est pas Annika qui n'aurait pas d'éducation dans un mausolée. Là, c'est le gouvernement pakistanais, c'est les institutions. Et on voit bien que cette question de la défense de l'islam, qui se pense, attention, de façon aussi géopolitique, c'est-à-dire il faut se démarquer de l'Inde voisine, de l'Inde hindoue, mais c'est aussi un courant plus global dans le monde. Et en fait, ça, ce courant-là, il se radicalise et il fait qu'il y a de plus en plus d'affaires de blasphème, de lynchage, etc.
Mais alors c'est assez compliqué à comprendre pour nous. Comment se positionne cette classe moyenne aisée, éduquée ? Vous avez dit beaucoup d'avocats, des ingénieurs qui viennent clairement pour faire de l'argent, Islamabad. Et d'autant plus qu'on est dans cette ville très ordonnée, avec beaucoup de petites maisons, des appartements, des quartiers
très
résidentiels, très à l'Occident, très à l'américaine finalement, et où il y a une obsession quand même de l'émancipation matérialiste. Le confort, sa petite maison, et en même temps, ces notions collectives, intouchables, religieuses. Comment tout ça cohabite finalement à l'intérieur des individus ?
C'est parce que je crois que c'est... D'abord, c'est aussi ce qui fait que c'est passionnant. Parce que nous, je crois qu'on pense en fait que l'émancipation matérielle, elle va de pair avec l'esprit critique, avec une plus grande ouverture d'esprit, avec peut-être même avec des velléités d'individualisme, d'athéisme, même peut-être. C'est pas du tout le cas à Islamabad. C'est le cas sur le. Il y a en tout cas il y a la volonté, comme vous l'avez dit, il y a la volonté dans les familles islamabadies de se recentrer autour du noyau de la famille. C'est-à-dire que dans toutes les maisons dans lesquelles vous irez, vous avez souvent les parents. C'est vrai, les parents cohabitent avec les enfants. On s'occupe de ses parents, mais on n'habite pas avec les cousines, les tantes, les nièces, etc. À ce qu'on trouve beaucoup plus dans le Punjab ou même à Karachi, où là, vous avez des maisons qui sont des maisons concession avec toute la famille qui cohabite. Non, Islamabad, il y a effectivement cette volonté de faire de l'argent, vous l'avez dit, d'être éduqué, d'avoir une bonne position dans un pays quand même qui s'écroule totalement économiquement. Il y a aussi évidemment la survie en fait de votre tribu, de votre famille qui est engagée. Mais cela ne veut pas du tout dire que vous êtes... relax, j'allais dire, ou ouvert sur les questions de mœurs ou sur les questions de religion. Alors attention, c'est quand même des gens qui autorisent leurs filles d'aller à l'école, d'aller souvent au lycée, voire d'aller à la fac.
Et qui dépensent beaucoup d'argent pour des écoles privées notamment.
Tout à fait, qui dépensent beaucoup d'argent pour des écoles privées, mais ça ne veut pas du tout dire que ce sont des gens qui sont comme à Lahore par exemple, Lahore qui est une beaucoup plus grosse ville, mais qui est vraiment une capitale culturelle où vous avez des biennales d'art contemporain, etc. Il n'y a pas de ça à Islamabad. Les gens ne sont pas forcément très cultivés. Ce qui est important pour eux, c'est de faire en sorte que leur famille vive bien.
Solène Fioriti, on arrive bientôt au terme de cette émission. Vous avez quitté Islamabad. Oui, oui, ça passe tellement vite avec vous. Après 3 ans à vivre dans cette capitale pakistanaise, qu'est-ce qui vous manque parfois de cette ville artificielle ?
Tout me manque, en fait. C'est une ville, parce que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Vous voyez des gens qui, évidemment, dont les discours sont, en tout cas, moi, me glaçaient et par moments que je trouvais vertigineux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en même temps, il y a face à eux des gens extraordinaires. Il y a face à eux ce qui nous constituait l'essentiel de nos relations, c'est-à-dire justement des gens qui pensent différemment, qui se voient le soir, qui se mélangent entre garçons et filles,
ce qui veut
produisent
dire
un discours critique.
Dans ce
mais
pays.
Extraordinairement courageux, même physiquement. En fait, il faut un courage physique extraordinaire pour vivre justement à rebours de toutes ces transitions. Et donc ça crée des groupes très solidaires et des amitiés formidables. Et nous, on y a rencontré nos plus grands amis, en fait.
Merci Solène Chalvon-Fioriti de nous avoir fait découvrir tellement précisément une partie de la vie quotidienne à Islamabad. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur d'un très beau livre sur les femmes en Afghanistan que je conseille. Vous avez vécu aussi à Kaboul. La femme qui s'est éveillée aux éditions Flammarion. Et on va se quitter avec votre dernier choix musical sur Islamabad.
Ça sera... Oui, alors là je l'ai vraiment, Larky Hank Marey, je l'ai choisi pour terminer avec un petit peu de pêche. parce que c'est justement une chanson indienne, mais l'Inde est présente en tout au Pakistan. C'est un peu fascination-répulsion à l'égard de ce pays. Oui. Et cette chanson, elle passe dans tous les mariages et en général, d'ailleurs, elle s'accompagne de chorégraphies assez salées, assez peu islamiques d'ailleurs.
Il faut aller voir le clip, hein, parce que la danse hyper suggestive du couple, de quoi mesurer encore une fois les ambiguïtés de la société à Islamabad, c'est du grand, grand Bollywood, mais c'est pakistanais. Hein.
Tout à fait.
Oh God, one more remix. जाए दिल धड़काए सीटी बजाए बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे हो करके इशारे हो लड़की ही हो लड़की ही हो लड़की आंख मारे आंख मारे हो लड़की आंख मारे आंख मारे हो लड़की आंख मारे जाए तेरे पीछे पीछे आए हम तो है दीवाने तेरे तेरा होना चाहे
सीटी बजाए नखरे दिखाए सीटी बजाए नखरे दिखाए बीच सड़क में हाय नाम मेरा पुकारे ओ करके इशारे ओ लड़का
तुषार कपूर की आवाज में कुमार सानू की आवाज में
ओ लड़की आंख मारे आंख मारे ओ लड़की आंख मारे आंख मारे ओ लड़की आंख मारे
Kent Marais, Solène Chalvon Fioretti, j'ai commis une erreur. Bien sûr, c'est un groupe indien et pas pakistanais.
C'était juste pour dire qu'il est très présent au Pakistan et cette culture-là est omniprésente au Pakistan, malgré ses efforts pour s'en démarquer, en tout cas politiquement.
Ouais. Et présent sur toutes les radios et dans tous les palmarès musicaux. Merci beaucoup, Solène Chalvon Fioretti, pour cette ville artificielle racontée au quotidien, Islamabad. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast, le programme musical à retrouver sur nos réseaux sociaux. Après Islamabad, la ville artificielle. Demain, suite de notre série d'été, vivre dans une ville aux deux visages. Budapest, en Hongrie. À demain, les voisins.